On accueille Sakina maintenant au 3921. Bonsoir Sakina.
Ah, bonsoir Olivier.
Bonsoir Sakina, comment allez-vous?
Oh, mais je suis tellement contente de vous entendre. Vous savez, je vous voyais à la télé avant et pour moi, c'était comme un grand rêve de vous entendre.
Mais écoutez, ça revient. Hein,
c'est
ça
un
revient.
Rêve qui se réalise.
Très bien. Dans les yeux d'Olivier, revient au mois de janvier, je vous le dis, Sakina, et pour tous ceux qui nous écoutent, la saison 10 revient au mois de janvier.
Eh bien, vous me filmerez, j'ai un grand parcours.
Très bien.
J'habite donc au 9-3, je ne dis pas tout, hein, je ne donne pas les coordonnées, tout ça, parce que j'ai un peu peur, je vous les donnerai en aparté. Mm-hmm. Mais en tout cas, je vais vous raconter des histoires qui me sont arrivées. Je suis aide-soignante.
Oui.
Et là, actuellement, je suis en maladie. Je suis en maladie parce que je suis très fatiguée avec ce métier et que j'ai eu le Covid-19. J'ai eu le Covid-19. Donc, le Covid, là, c'est ça, c'est bien Covid-19.
Oui, il me semble. Oui, Covid-19.
Et puis, j'ai été un peu sacrifiée, donc en 2020. Ça veut dire que j'ai fait partie des gens qui étaient en première ligne.
Oui.
Voilà, donc
et oui, ça a dû vous fatiguer énormément déjà la masse de travail que vous aviez et bien évidemment.
J'ai travaillé en 12 heures dans un EHPAD, dans une unité protégée.
Et ce Covid, il a été violent pour vous.
Le Covid a été horrible. Oui, il a été violent. Il allait dans le poumon et dans les nerfs.
Ouh là là.
Et en plus, comme on ne connaissait pas du tout cette maladie, et je m'en suis sortie. Donc, j'ai heureusement ma cousine Yasmina, là, qui est pas loin, avec son fils d'Ali, pas loin, qui sont là, et puis qui m'ont aidée, qui m'ont soutenue. Sinon, je serais morte. Je serais morte parce que je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Et je coulais à pic, ma couleur changeait, tout changeait, je ne savais rien du tout ce que c'était. Et je mélange un peu quand je parle, hein. Je ne parle pas en ordre.
Hein. Ne vous inquiétez pas.
Je vous ai parlé d'histoires douloureuses qui m'étaient arrivées. Donc vous avez parlé d'un sujet qui me touche profondément, c'est Mila.
Oui.
Vous venez de parler de Mila et vous avez dit que Mila, elle avait parlé. Moi, je me rappelle de cette histoire de Mila. En fin de compte, c'est même pas des. On pourrait dire que c'est presque des faux musulmans qui l'ont. Des horreurs, qui l'ont agressée, qui l'ont harcelée, qui l'ont. Truc, il y a aussi quand même eu quelques confusions parce que ces faux musulmans qui l'ont agressée, normalement, s'ils étaient des vrais musulmans qui étaient en prière, qui étaient en spiritualité, ils n'auraient pas perdu de temps à agresser cette jeune fille.
Oui, et je pense que vu la teneur des propos adressés à Mila à l'époque, ça ne volait pas très haut, ma chère Sakina.
Ça ne volait pas très haut, mais en tout cas, moi, j'ai eu des trucs aussi graves qu'elle en 1995.
Ah bon ?
Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'il y a eu les intégristes, lorsqu'il y a eu les intellectuels algériens avec les décennies noires, les années noires, quand il y avait le terrorisme en Algérie, les Algériens venaient en France.
Quand il y avait le GIA, quand il y a eu toutes ces histoires.
C'est
avec
ça. D'accord. Quand il y a eu le GIA, tout ça. Moi, je revenais de l'Algérie. Je venais d'écrire un livre qui s'appelle Journal Nationalité Immigrée. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Non.
J'ai écrit mon journal au fond de classe. Ben, je vous conseillerais de lire sans vouloir me faire de la pub.
Oui.
Journal Nationalité Immigrée, où j'ai parlé du retour et du re-retour.
Le retour de quoi?
Je suis allée en Algérie avec l'illusion du parti unique à l'époque qui illusionnait nos parents, les pauvres émigrés, en leur disant que quand on rentre en Algérie, on aura tout, ce sera le paradis. Et quand je suis arrivée, ça a été l'enfer.
Et pourquoi ça, racontez-moi.
Pour une enfant issue de l'immigration, une enfant issue de l'immigration n'est plus une fille du pays. C'est plus une Algérienne. Quand j'étais en Algérie, j'étais une émigrée. Et en France, j'étais une Algérienne. Donc d'ailleurs, dans la préface de mon livre, j'ai écrit que c'est en France que j'ai appris à être émigrée. Et c'est en Algérie. Non, c'est en Algérie que j'ai appris à être émigrée. C'est en France que j'ai appris à être Algérienne.
Oui, je comprends. Mais pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes retournée en Algérie, vous n'étiez plus considérée complètement comme une Algérienne à part entière.
Pas du tout. Et puis, je me suis retrouvée seule, quasiment, à la rue. J'ai même dormi à la rue.
Là-bas ?
J'ai dormi un jour, là-bas, en Algérie.
Et pourquoi ça ? Vous n'aviez pas la maison, la maison de famille ?
Pas du tout. Parce qu'en étant en France, vous n'avez plus... Mon père, qui était Algérien, qui est décédé, il nous cachait la famille du bled. Ils ne nous en parlaient pas, ils n'en parlaient pas. Et puis, c'est comme s'il avait un peu honte lui-même d'être un émigré. Donc, il ne voulait pas montrer à la famille qu'il était pauvre et tout ça. Et il ne voulait peut-être pas aussi que nous, on parle, hein, particulièrement moi. que je dise je suis une grande gueule.
Ah, d'accord.
Les secrets de famille, que je parle des secrets de famille. D'ailleurs, personne n'aime, hein. Personne n'aime dire les secrets de famille. Alors, ce que je voulais surtout, Olivier, c'est parler de ce qui m'était arrivé. Donc, en 1995, moi, je pratiquais pas l'islam. Je pratiquais pas du tout. Je connaissais même pas bien. C'est après que j'ai un peu pratiqué tout ça, mais pas le soufisme. Pas du tout l'islamisme, tout ça. Et puis,
qu'est-ce que le soufisme avec... Expliquez-moi.
Le soufisme, c'est une philosophie de l'islam pacifique, un peu comme les derviches tourneurs.
D'accord.
Les derviches tourneurs en Turquie, tout ça, les derviches tourneurs qui font les mehlevi, qui font des danses soufis, tout ça, et qui sont considérés comme des adorateurs parce qu'ils ont une obéissance au shir.
Ah oui,
le
c'est
maître.
Le soufisme, c'est là où on danse en rond jusqu'à.
Oui, c'est ça. C'est les danses avec une main. Vous recevez, oui. vous tendez la main à Dieu et avec ce que vous recevez, vous le donnez à toute l'humanité,
oui.
Même aux mouches, même aux rats, même aux souris, quelles que soient les confections des gens. Mmh. On n'est pas dans le jugement, dans le soufisme. Mmh.
Haram Helel, ça veut dire quoi?
Ça veut dire ce qui est licite et ce qui est illicite.
D'accord. Je crois que j'ai vu un documentaire sur la Tchétchénie et je crois que c'est le soufisme là-bas. Ils font des danses comme
oui,
ça.
Oui, il y avait le soufisme avant, mais maintenant c'est en train de devenir l'intégrisme. Malheureusement, c'est que l'intégrisme gangrène le monde entier. L'intégrisme a tué des très grands professeurs de médecine en Algérie, comme je lui rends hommage là ce soir, le professeur Boussipsi, Bouropsa et bien d'autres, et des milliers d'Algériens qui sont morts. Et à l'époque, je me rappelle en France, j'ai été harcelée pendant 2 ans par les intégristes quand j'ai écrit mon livre, Journal Nationalité Immigrée. Vous pouvez le trouver, il est toujours disponible.
Alors,
hein. Journal Nationalité Immigrée.
Il
évoque justement, j'en ai marre, le chômage, la misère, parce que quand j'étais en France, c'était toujours stage chômage. J'étais en échec scolaire parce que algérienne, je vivais en Alsace. Et en Alsace, à l'époque, les Algériens n'étaient pas très bien considérés après la guerre d'Algérie.
Oui.
Donc, j'ai vécu mon enfance à Mulhouse, en Alsace.
Mm-hmm.
Et après, évidemment, en tant qu'Algérienne, j'ai été mise en échec scolaire alors que j'étais presque une surdouée. On m'a diagnostiquée comme ayant un potentiel supérieur à la moyenne. Je lisais des livres, je lisais Goethe, je lisais toutes sortes de grands auteurs, Marx. J'avais tout lu à 15 ans. Et malgré ça, on m'avait mis au fond de la classe. On m'a jeté dans une classe de transition. Et ensuite, évidemment, j'étais au LEP. Et j'avais fait une grève de la faim, justement, quand j'avais 15 ans, contre le racisme. Contre le racisme. Et après, plus tard, je parle en gros. Donc, bien plus tard, je me suis retrouvée qu'avec stage, chômage d'âge. Du coup, je suis retournée en Algérie avec ce qu'on appelle le mythe du retour. Ça veut dire, l'amicale des Algériens à l'époque disait à nos parents que de toute façon, on est Algérien, donc on ne vivra pas en France. Et il y avait ce mythe, donc nos parents, en général, construisaient une maison en Kabylie. Mes parents étaient Kabyles, donc ils ont construit une maison dans les terres de la petite Kabylie. Et puis, on n'y est jamais allé. Parce que moi, j'ai eu après la désillusion du retour.
D'accord.
Quand je suis retournée, ça a été sale pute, sale émigrée.
Vous étiez rejetée, en fait.
J'étais complètement rejetée.
On vous reprochait quoi
par les mecs.
On vous reprochait
Comment
quoi, en fait. On vous reprochait quoi, en fait
Surtout d'être une femme et d'être une émigrée, puis d'avoir pas mon identité, d'être sans repère.
D'accord.
C'est d'être sans repère, ça veut dire d'avoir plus son identité. Et quand je suis en France, je suis l'Algérienne, et quand je suis en Algérie, je suis l'émigrée. Alors du coup, j'avais décidé, dans mon livre, j'avais écrit avec humour que j'ai construit une île entre Marseille et Alger. Et je vendais ce qu'il y avait. Et je vendais des produits, dans mon imagination, je vendais des produits qui n'avaient ni en France ni en Algérie.
Quel type de produits?
Des bananes, par exemple. Des bananes en Algérie, les bananes coûtaient hors de prix à l'époque, et le café.
D'accord.
Et en France, je vendais mes mots. Donc, j'ai commencé à écrire ce livre quand j'avais 15 ans au fond de la classe, quand j'étais en échec scolaire à Mulhouse. Donc, j'ai commencé à écrire ce livre, j'en ai marre, le chômage. Et je raconte l'échec scolaire, puis je raconte quand je grandis, et de fil en aiguille, ça devient de plus en plus littéraire. D'ailleurs, il y a eu un article dans Le Monde et dans Le Monde diplomatique, et j'avais même répondu à Ignacio Ramonet parce qu'il a écrit « Le beurre ». Pour les beurres. Et moi, je ne voulais pas qu'on appelle beurre. J'ai écrit depuis le temps qu'on parle du beurre. Il a eu le temps de devenir rance. Le beurre, là. Le beurre qu'on fond. Parce qu'on est du beurre, on nous fond.
Oui, oui. Alors,
donc,
essayons
alors, je sais pas
de,
dans quoi on nous fout.
essayons de bien de rester sur ces périodes-là, en fait, et de bien, pour
Oui.
que toutes celles, ceux qui nous écoutent comprennent bien. Donc,
Oui.
il y a eu cette période-là où vous avez écrit, vous avez commencé à écrire ce livre, si j'ai bien compris,
Oui.
d'abord en France. Vous
Je
avez
l'ai
écrit.
écrit en 1987.
Donc là, vous étiez en France.
Oui, je suis revenue de l'Algérie en 85.
Ah, vous êtes revenue d'Algérie.
Ah ben oui, j'ai fait le re-retour. De toute façon, comme j'avais un papier algérien à l'époque, je n'avais pas le droit de rester plus que 5 mois et demi. Vous perdez vos papiers, vous ne pouvez plus jamais venir, même si vous êtes né en France.
Vous ne pouvez plus revenir en France, vous voulez dire?
Vous ne pouvez plus revenir en France. Il
D'accord.
n'y avait pas d'accord entre l'Algérie et la France à cause de la douloureuse, évidemment, affaire de la guerre d'Algérie.
D'accord.
Mais moi, à la guerre d'Algérie, je n'y connaissais rien. Je suis née en France. Je ne savais même pas que j'étais algérienne. D'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit dans le livre, que j'ai appris à être algérienne par des professeurs racistes qui disaient algérien. Quand on m'a dit algérien, moi, je croyais qu'on me traitait de salope.
Alors, vous avez tenté donc. Avant 85, donc en 80, de revenir en Algérie. Pourquoi? Qu'est-ce que vous vouliez faire?
Eh bien, parce que je souffrais trop en France, parce que j'étais toujours au chômage. Eh bien, je voulais travailler. Je suis partie à Alger, comme à Alger, j'étais rejetée. Et qu'après, il y avait l'intégrisme, qu'il y avait de plus en plus d'intégristes qui attaquaient d'ailleurs particulièrement les Berbères.
Oui.
En les considérant de mécréants, les considérant mécréants d'incroyants. Il y avait déjà l'intégrisme. Tout ce qui se passe en France actuellement n'est finalement que la suite de ce qui se passait déjà en Algérie dans les années 80. Dans les prémices, tout ça venait, sont arrivés dans les années 80 et puis sont grandis comme le ténia dans le corps de quelqu'un. Ça veut dire que le ténia, on l'a laissé grandir.
Donc, du coup, en fait, vous avez été rejeté là-bas. Et donc, vous avez décidé de rentrer en France.
Oui, c'est ça. Je suis rentrée en France et puis après, j'ai commencé à prendre des cours du soir.
Alors, comment
j'ai
ça s'est passé, ce retour en France?
Eh bien, ce retour a été très, très difficile parce que je ne savais plus qui j'étais. J'avais été jusqu'à Tamanrasset pendant 4-5 ans. Avec les Touaregs, ça se passait super bien, mais c'est avec la police algérienne que ça se passait mal et avec les autorités, évidemment. Et ensuite, mon livre a été interdit et on m'a menacée. J'ai été même menacée de mort. Donc, quand je suis rentrée en France, il m'est arrivé une histoire horrible. J'ai été harcelée pendant 2 ans par des intégristes.
Oui.
En France, je vous dis.
Où en France?
À Paris.
D'accord. Mais dans le 9-3 ou à Paris même?
Non, pas encore. À Paris même. Je vivais j'avais une petite chambre dans le 17e arrondissement. Mais pas dans le 17e de luxe, hein, dans le 17e au niveau de la Fourche.
D'accord. Dans le 17e populaire.
Même. J'habitais rue Nollet, dans le 17e populaire. Donc, je vivais là. Et à un moment donné, je ne sais pas comment des intégristes m'ont demandé de brûler mon livre. Ils ont commencé à me téléphoner, ils ont commencé à me harceler et ils m'ont dit de brûler ce livre et de me repentir. Un peu comme Mila, elle veut dire repens-toi et dis que tu regrettes d'avoir écrit ce livre. Voilà ce que j'avais comme appel téléphonique tous les jours. Puis je suis allée au commissariat, j'ai porté plainte, on m'a pas pris au sérieux. Et même les mecs, comme ils étaient malins, c'est vrai, les intégristes ne choisissaient pas des mecs typés, ils prenaient des mecs blonds aux yeux bleus.
Ah oui?
Comme ça, les Français les passaient pour des Français, puisque les Français aussi, pas tous les Français, mais comme la police française à l'époque jugeait beaucoup au faciès, je ne dis pas tous les policiers, hein, mais beaucoup de policiers jugeaient au faciès, les mecs, ils étaient malins, les intégristes étaient blonds aux yeux bleus.
D'accord, et ce sont ces gens-là
donc,
qui venaient vous
voir.
Ils
se sont mis à m'attaquer. Ils étaient sept.
Ils étaient cinq dans la...
Sept.
Sept
mecs.
Sept.
Sept.
D'accord.
Ils me suivaient dans le métro, ils me suivaient partout. J'étais auxiliaire de vie à l'époque, ils me suivaient, j'avais des torsions de l'intestin. J'ai écrit finalement une lettre à un juge d'instruction qui a mis 2 ans à introduire mon dossier pour me convoquer parce qu'elle m'a dit après qu'elle avait beaucoup, 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 beaucoup de dossiers, que c'est ce qui fait. Je lui ai dit, mais madame, mais j'aurais pu mourir 100 000 fois. Et je vivais cet harcèlement en silence. Et même mes amis ne me croyaient pas, pensant que j'ai été avec l'un d'eux et que eux, c'est les grands frères. C'est l'histoire du mythe des grands frères. Et après, on m'a même dit, des musulmans modérés, t'as qu'à te comporter comme une bonne musulmane. Et je vais vous dire la vérité, pourquoi? Parce qu'une musulmane, une femme musulmane libre qui fréquentait à l'époque un juif, c'était l'horreur. Et c'est ce qui m'est arrivé. Vous voyez?
Oui.
Et ensuite, j'ai écrit d'ailleurs un deuxième livre. Bien plus tard, je l'ai caché pendant parce que comme suite au harcèlement. Après, il y a eu le procès. Et heureusement, ils les ont arrêtés.
Alors, parlez-moi du procès. Essayez de vous arrêter sur ces étapes-là.
Oui.
Parce qu'il y a eu un procès, donc ça veut dire qu'il y a un juge qui a suivi votre plainte. Pour
c'est
le coup.
C'est une femme qui a lu ma lettre, qui m'a pris. Et un policier pied noir qui connaît un peu notre culture, tout ça et tout.
Oui.
Il a suivi un peu ces gens-là, il m'a pris au sérieux. Et il a fait.
Condamné.
Un peu le.
Il a fait une enquête, je suppose, pour prouver que vous étiez harcelé.
Ils ont fait une école avec la DGSE. Avec la DGSE,
d'accord.
Ils ont fait une enquête. Ils m'ont convoqué et ils m'ont montré les photos des gens qui me harcelaient.
D'accord, d'accord.
Ils me les ont... Mais au bout de 2 ans, je peux vous dire qu'en 2 ans, j'ai perdu 10 kilos.
Mm-hmm. Oui, parce que personne ne voulait vous croire, en fait.
On ne me croyait pas et mes amis m'avaient lâché à ce moment-là. Ils m'avaient lâché en me disant parce que je faisais peur. Quelqu'un de harcelé, c'est quelqu'un qui fait peur.
Oui, puis il y a aussi, vous savez, des gens qui pensent que vous êtes en train de tomber à moitié folle et que vous racontez des bêtises.
C'est ça. Hein? Mais c'est ce qu'ils m'ont dit même. Et puis ils ont même dit peut-être que t'as couché avec l'un d'eux et qu'ils t'en veulent, pour parler grossièrement.
Oui.
Alors que tout était faux. J'ai été harcelée juste parce que j'avais écrit ce livre et la juge d'instruction, au début, elle m'a un peu grondée parce que j'avais écrit une lettre un peu sévère. Compte tenu de la trop grande attente, je lui ai dit, vous attendez quoi que je vais mourir et vous ne voyez pas ce qui se passe en Algérie et tout. Et après, elle m'a expliqué qu'il y avait tellement de dossiers que c'était difficile de prendre en considération une plainte immédiatement. Bon, c'est très très long.
Oui.
Mais le problème, c'est tellement long, c'était horrible pour moi. J'avais des torsions de l'intestin, je ne pouvais plus manger, j'arrivais plus à boire et même mon gardien qui est portugais, tout ça à l'époque, il me soutenait, mais il avait tellement peur des intégristes que, vous savez, c'était comme une espèce de loi du silence qui me tombait dessus.
Oui.
Les mecs, ils m'ont menacé de mort dans le métro, les gens n'ont pas réagi. Ils croyaient que c'est un couple qui se battait. Ils faisaient d'ailleurs croire.
Comment ça s'est soldé tout ça, Sakina? Ils ont été condamnés?
Soldé qu'il y a eu un procès, ils ont été condamnés. Bon, ils ne m'ont jamais donné l'argent qu'ils devaient me donner, mais l'avocat m'a dit, il ne faut pas t'inquiéter. Même s'ils ne donnaient pas l'argent, tu t'en fous. L'important, c'est que tu te débarrasses à jamais.
Ils ne vous ont plus jamais embêté après?
Non, après non, je vais vous dire, j'ai même écrit, mais par contre, j'ai écrit un deuxième livre où je raconte cette histoire parce qu'elle m'a traumatisée.
Oui.
Cette histoire m'a traumatisée pendant plus de 10 ans. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Une femme de ménage particulière » qui vient d'être publié l'année dernière aux éditions Sidney Laurent.
Mmh.
Vous voyez, parce que les grands éditeurs ne voulaient pas non plus me publier, les grands éditeurs aussi ne publient pas des gens, évidemment, comme moi. Donc, pourtant, je sais écrire. J'ai un peu. D'ailleurs, l'écriture, je l'ai rendue romanesque dans le deuxième livre, en forme de nouvelle. Vous savez pourquoi ?
Non.
Parce que j'avais tellement peur, j'ai changé le nom, j'ai changé le prénom, j'ai tout changé pour qu'on ne me reconnaisse pas.
D'accord.
Parce que j'avais peur, parce que je suis persuadée que j'aurais vécu l'histoire de Mila.
D'accord. Et donc, rappelez-moi le titre du livre, Une femme de ménage particulière.
Il s'appelle Une femme de ménage particulière. Vous
et
savez
pourquoi
je vais vous faire rire? Parce que quand je travaillais chez les particulières et les femmes riches, au lieu de faire sans arrêt tout le ménage des villas entières jusqu'à épuisement, parce que je travaillais de 8h à 11h du soir comme vraiment une bonne à tout faire, eh bien, je lisais tous leurs livres parce qu'ils les laissaient dans la poussière. Et moi, j'étais censée les dépoussiérer. En les dépoussiérant, je les lisais tous.
D'accord. D'accord. Et dans ces villas, c'était les villas du 16e, du 8e, dans lesquelles vous travaillez ?
Oui, du 16e, de Neuilly-sur-Seine.
Oui.
Et je n'ai pas été déclarée pendant 5 ans.
Oui, oui.
Quand je suis revenue de l'Algérie, je n'ai pas été déclarée et j'ai perdu 5 ans comme ça, que je dois rattraper d'ailleurs. Mais en tout cas, dans mon livre, Une femme de ménage particulière, qui vient de sortir l'année dernière, d'ailleurs, il y a une vidéo sur YouTube où je raconte à un cinéaste tout ce qui m'est arrivé.
Oui.
Je raconte une nouvelle, je suis très émue, hein. Je raconte une nouvelle qui s'appelle Chronique d'une douleur quotidienne. Et je raconte justement toute cette souffrance de ce que c'est le harcèlement quotidien, uniquement parce qu'une femme musulmane libre aime un juif.
C'était ça, le souci, en fait.
Et que ces intégristes ont aussi reproché, oui, ils m'ont reproché, ils ont dit que les juifs, c'était des singes, c'est des intégristes, hein.
Oui.
C'est pas tous les musulmans, jamais de la vie, parce que les musulmans humbles, dignes de ce nom-là, je pense pas qu'ils traiteraient les juifs ou les chrétiens, ou même les athées, ou même les bouddhistes, ou peu importe quoi. Je crois que avant, ça n'existait pas ça. Et mon père, ses grands amis, c'était tous des juifs. Les amis des Kabyles, c'était des juifs, hein, toujours, et on n'avait jamais de soucis avec les juifs. Il n'y avait pas tout ça, au contraire, c'était nos frères. Maintenant, les intégristes ont monté tout le monde contre les juifs, et malheureusement, c'est que beaucoup de musulmans, quand ils parlent des juifs, en parlent très mal, et c'est vrai que cet antisémitisme, il faut le condamner.
Il faut le combattre, le condamner, et vraiment le combattre au quotidien, et il y a beaucoup de musulmans qui sont amis avec des juifs, hein, vous le savez aussi.
Mais bien sûr, beaucoup plus qu'on ne l'imagine, et il ne faut pas faire une confusion et dire que tous les musulmans sont anti-juifs ou anti-sites, mais malheureusement, il y a des phrases parfois qui prêtent à confusion, qui ramènent les gens à des confusions, qui amènent des choses très graves, des conséquences graves. D'ailleurs, moi, là où je vis, à Saint-Denis, on ne peut plus dire qu'on est une musulmane libre et qu'on connaît les juifs sans être en danger. C'est quand même fou, hein.
Oui, c'est fou. C'est fou.
Je raconte une autre nouvelle. Une autre nouvelle où je raconte justement cette histoire. J'ai aussi raconté l'histoire
Sakina, on n'a plus que 10 minutes, donc vous vouliez me parler du 9-3 aussi, puisque vous vouliez parler...
Oui, je suis dans une cité où évidemment tout est cassé. Ce n'est pas les jeunes qui ont cassé, là, c'est les jeunes. Les jeunes, ce ne sont pas que des casseurs. Ce que je voulais aussi dire, il ne faut pas toujours que les gens disent que tous les jeunes, parce qu'on entend parler des jeunes dans les banlieues depuis l'histoire de Marseille, je trouve que Macron, il aurait pu venir à Saint-Denis, dans notre cité.
Il va venir, il va venir.
Il n'a pas besoin d'aller si loin. Et j'espère qu'il va venir de tout cœur.
Oui, il va venir.
D'ailleurs, je lui ai écrit une lettre. Et puis, il a été touché par mon deuxième livre. Macron m'a répondu.
Il est déjà venu dans le 9-3, le président.
Oui. Ouais. Mais dans notre cité, parce que notre cité, vous savez, tout est cassé, mon bâtiment, il y a des cigarettes, des traces de cigarettes partout, il n'y a pas de digicode, là, ils arrachent l'Internet dans le sous-sol, tout est cassé et les bailleurs ne font rien. Ce que moi, j'en veux aussi, c'est aux bailleurs. Comme elle disait, les filles qui ont parlé à Macron, elles ont super bien parlé. Les filles qui ont parlé le jour où Macron était à Marseille,
oui.
Je me reconnais beaucoup dans leur parole, parce que c'est ce que je vis. Là, je suis chez ma cousine Yasmina et Dali, son fils, parce que quand je vais à Saint-Denis, je suis pas mal à cause des jeunes, je suis mal à cause de l'environnement. Et, mais c'est vrai que si il y a l'histoire du trafic, il y a tout ça qui gangrène beaucoup. Plus il y a aussi ce qu'on ne dit pas, l'intégrisme.
Alors,
et les femmes sont toutes voilées. Elles sont toutes voilées dans la cité. Moi, je dois me voiler dans ma cité.
Ah bon ?
Je me voile et
les filles en discrétion. On vous oblige ou pas ?
Oui, parce que je suis une femme seule. Parce que je suis une femme seule d'un certain âge. Et qu'une femme seule... Moi, je suis une femme seule. Je m'assume. Je suis divorcée. Je suis veuve. Je n'ai pas envie de me remarier, d'être mariée pour l'honneur. D'ailleurs, j'ai écrit dans mon premier livre l'honneur de mon père et toute mon horreur. Quand j'ai dit ça, c'est quand on vous oblige pour l'honneur de se marier. Mais quel honneur ? Comme si la femme n'avait aucun honneur.
Mais ce que vous voulez dire aujourd'hui, Sakina, c'est que si vous promenez dans votre cité et que vous n'êtes pas voilée, on vient vous dire de vous voiler ?
Certaines personnes vont te dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Pas tous, hein. Faut pas non plus généraliser, mais certains, même des femmes. Les femmes qui me disaient en arabe, tu es musulmane ? Oui, alors pourquoi tu es habillée comme ça ? Donc j'ose pas m'habiller avec une mini-jupe, pas une mini-jupe, je ne porte pas vraiment des toutes mini-jupes, mais à la limite, je m'habille comme je veux, je suis dans un pays laïque, je ne comprends pas pourquoi je dois être obligée d'étrangler là-bas et en foulard. Et j'écris en cachette, vous rendez compte, j'écris en cachette, je suis en cachette, je vis dans la clandestinité dans ma cité. Je suis clandestine dans cette cité, j'en ai marre.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas revendiquer votre laïcité, c'est ça qui vous
meurtrit le plus. Non, et je ne peux pas revendiquer mon écriture. Mon écriture, ça parle d'amour, ça parle de nudité, d'amour, de tout. C'est pour ça que Mila, quoi qu'elle soit, je me suis mis dans la peau de Mila et je me suis mis profondément dans la peau. Je me suis reconnue.
Vous savez, Sakina, vous n'êtes pas la première femme algérienne à nous appeler et à revendiquer cette liberté. On a eu aussi des femmes marocaines qui nous ont appelées sur cette antenne pour nous raconter ce genre de comportement. C'est malheureusement, et c'est bien ce que vous disiez, hein, ça n'est pas tout le monde hein, qui...
Je suis allée dans un café, il y a des mecs. J'ai dû dire bonjour 10 fois. Après, j'ai dit bonjour en kabyle. J'ai dit bonjour en arabe. Et j'ai dit au monsieur, pourquoi vous ne me dites pas bonjour? Je lui ai dit, pourquoi tu ne me dis pas bon matin? Je lui ai dit en plus, moi j'ai été à la Mecque. J'ai fait le petit pèlerinage il y a très longtemps, mais je n'ai pas à me justifier en disant, t'inquiète pas, je suis une hajja honorable pour avoir droit de m'asseoir.
Et il m'a Pourquoi une femme n'a pas le droit de s'asseoir dans un café?
Eh bien, j'ai attendu, parce que c'est haram. D'ailleurs, dans mon livre, haram, ça veut dire péché. Moi, je l'ai écrit dans mon livre. Haram, ils n'ont que ce mot dans la bouche. Je l'ai dit avant qu'il y avait l'intégrisme en France. Et tout est arrivé après. Nous, les gens qui avons vécu l'intégrisme en Algérie, dans les années 95, on savait que ça arriverait en France. Donc, je pense qu'en France, les autorités savaient qu'un jour ou l'autre, en France, ça barderait. Tout ça n'est qu'une continuité. L'intégrisme est international et gangrène le monde entier. C'est un système politique fasciste. Mmh. Et ce qui se passe en Afghanistan n'est que le reflet de ce qui s'est passé en Algérie en 1995. Et c'est terrible, terrible, pire pour les femmes, pour les filles, que pour les hommes. Parce que l'homme, encore, il peut... Un petit garçon de 4 ans, il vous commande, parce qu'il a un sexe, excusez-moi d'être grossière, qui va en avant, et que nous, on a un sexe qui rentre, je ne sais pas ce que ça veut dire, tout ça, mais c'est atroce. En Algérie, moi, je me souviens que j'ai foutu une claque à un type, le jour où il y a eu la tigrice, qui m'a arraché mes boucles d'oreilles, et qui m'a foutu un pétard dans les oreilles, parce que je n'avais pas le foulard. Allô ?
Oui, je suis là, je vous écoute, je suis totalement médusée par ce que vous me dites.
Et vous pouvez lire mes deux livres sans faire de la pub. C'est des livres écrits par une femme de ménage. J'ai été bonne à tout faire, femme de ménage, livrée à moi-même. J'ai jamais eu un centime de mes parents, j'ai jamais eu un seul jouet. Je viens d'une famille nombreuse de 9 enfants. Mon frère, qui était surdoué d'ailleurs, est décédé de souffrance parce qu'il a implosé. Parce que justement, il ne pouvait pas exprimer qui il était. Et comme il avait changé son nom, qu'il avait pris un nom français, un nom au lieu de s'appeler Mohamed, il s'appelait Michel. Donc pour les gens, et lui, n'était pas croyant. Et ben quand il disait lui aussi qu'il n'était pas croyant, on le traitait de tapette parce qu'il était élégant. Donc on lui disait que c'est une tapette parce qu'être élégant, c'est plus être un homme. Ces mecs-là, je veux dire, je dis même pas ces mecs-là, ces monstres-là, ces monstres d'intégristes. Je parle pas des musulmans, je parle des intégristes. J'invite d'ailleurs tous les musulmans à ne jamais les suivre et encore moins les musulmanes. J'aime les musulmanes libres. Libre, parce que moi, je viens du peuple libre. Tamazir,
la grande majorité des musulmans sont libres, en plus, Sakina, vous confirmez.
Exactement. Et malheureusement, c'est que des gens comme Zemmour, maintenant, on se croit, moi, je l'ai encore entendu tout à l'heure, qu'il ne faut plus s'appeler Mohamed.
Oui, non, mais ça, c'est...
Troisième génération, on n'a plus le droit de s'appeler Mohamed.
C'est d'une bêtise consternante, ça.
Et toute la télé lui donne tout l'audit.
Oui, on est en train de lui faire un écho formidable. Ouais,
et il ne devrait pas lui faire cet écho. Et moi, j'ai peur de ça et j'ai peur des confusions des gens. Parce que l'ignorance, ça amène à la bêtise.
C'est une autre sorte d'intégrisme que de vouloir imposer qu'on ne puisse pas appeler un enfant... Mohamed.
Il a dit qu'au but d'une troisième génération. Mohamed ou Shlomo.
Oui, il y a des très beaux imams. Inam.
J'ai écrit une nouvelle sur un imam qui tombe amoureux, comme si l'amour était interdit. Vous savez, dans les soufis.
On n'a plus que 2 minutes.
Je vous dis dans les 2 minutes. Vous savez ce qu'il disait Ibn Arabi, un grand saint de l'islam du 12e siècle, 12e. Il disait, j'ai une mosquée dans mon cœur, j'ai une synagogue dans mon cœur, j'ai une église dans mon cœur. Ma religion est la religion de l'amour.
Oui.
C'est beau ?
Malheureusement, ça devrait être. Peut-être ça, la religion.
Ça ne devrait... on va lutter pour ça.
Se dire que la religion, toutes les religions prônent l'amour à la base. Hein.
Voilà. Mais écoutez, Olivier, si un jour vous faites une émission de télé, n'hésitez pas de me solliciter. Et je remercie aussi beaucoup Florian. Et aussi pour Amar, qu'il ait du courage, qu'il ne lâche pas, qu'il ait du courage. Et puis pour tous les gens qui vous appellent. Et vous êtes quelqu'un... franchement d'extraordinaire, de formidable.
Merci, vous êtes
unique.
Gentil.
J'espère que vous viendrez me voir. Je le dis sincèrement du fond de mon cœur. Et je viens du fin fond du 9-3 pour vous parler. Vous m'avez sorti vraiment d'une grande angoisse. Parce qu'en tant qu'aide-soignante, croyez-moi que nous sommes des sacrifiés. Nous sommes des sacrifiés, nous souffrons. Mais je suis souvent là en maladie parce que je suis épuisée. J'ai 62 ans. Et je travaille toujours parce que si j'arrête là, j'aurai 700 euros de retraite.
Et alors, dans combien de temps vous aurez le droit à un peu plus? Vous devez travailler encore combien de temps? Parce qu'il y a eu ces 5 ans au noir, là, qui vont vous être...
Voilà, c'est ça. Je dois rattraper 5 ans normalement, mais comme je deviens maintenant fatiguée et malade, oui. Je ne pourrai pas aller jusqu'à 70 ans.
Non, mais peut-être...
Je ne pourrai pas.
Peut-être 60, à 65 ans, si vous vous arrêtez, vous aurez combien, à votre avis?
Ben, j'aurai 900 euros.
Oui, ça ne fait pas lourd quand même, hein.
Mais oui, mais c'est pour ça que je ne peux pas déménager de cette cité. Oui. Je ne peux pas. Vous savez ce qu'on est? On est piégés en plus dans la cité. Moi, ce qui me touche, c'est de ne pas pouvoir m'habiller comme je veux.
Oui, oui, je comprends. Vous savez quoi, Sakina, je vais vous proposer. On se rappellera pour finir votre témoignage dans la semaine. Vous allez voir ça avec Florian. Hein, vous ne raccrochez pas.
Oui.
Mais on reprendra cette discussion dans la semaine. On va définir d'un moment. Et puis... On finira ensemble, parce que je sens que vous avez encore pas mal de choses à me dire et que le temps presse. Donc je vous embrasse, vous ne raccrochez pas.
Moi aussi.
Et puis vous ne raccrochez pas et puis on va définir d'un moment. D'accord ? Je vous embrasse, Sakina.
Oh,
et je dois vous dire qu'il y a plein de SMS au 739-21 qui disent que vous êtes extraordinaire, que vous êtes une femme courageuse, que vous êtes formidable. Donc il faut rien lâcher, ma chère Sakina.
Merci.
Je vous embrasse.
Merci.
Et à bientôt cette semaine. Au revoir.